7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins en Lettonie, dans les Pays-Baltes. Ce sont sans doute les derniers apatrides d'Europe. Sur leur passeport figure un terme aussi étrange qu'insultant, alien, qui signifie étranger. Aujourd'hui, ils sont encore 260 000, c'est-à-dire 15% de la population à vivre en Lettonie avec ce statut de non-citoyen, c'est-à-dire privé de leurs droits civiques. Ils sont originaires de Russie pour la plupart, mais aussi d'Ukraine ou d'Azerbaïdjan. Leur tort, eh bien, c'est d'être né après 1940. Pour tenter de comprendre cette situation ubuesque, il faut remonter l'histoire de ce petit pays de 2 millions d'habitants, situé au bord de la mer Baltique, au destin particulièrement tourmenté. La Lettonie est créée en 1920, après la Première Guerre mondiale, puis occupée 20 ans plus tard par l'armée soviétique, puis par les nazis en 1941, puis de nouveau par l'armée soviétique qui reprend le pays en 1944. La Lettonie redevient soviétique jusqu'en 1991, puis enfin accède à une nouvelle indépendance. C'était il y a presque 25 ans, les 700 000 Russes installés en Lettonie deviennent alors des non-citoyens, des aliens. En 1998, la Lettonie pense régler le problème en leur permettant d'accéder à la citoyenneté grâce à un test de langue. 400 000 d'entre eux réussissent le test, mais pour les autres, dont certains sont nés en Lettonie, eh bien il s'agit d'une provocation, d'une injustice. Et dès lors, le fossé se creuse entre russophones et lettons. L'incompréhension est totale. Il y a la langue, mais il y a aussi l'histoire qui divise les habitants en Lettonie. Il y a plus d'un an, la Russie annexait la Crimée, une province qui faisait également partie de l'Union soviétique. Alors qu'en Lettonie, de plus en plus de non-citoyens se tournent vers Vladimir Poutine, faut-il craindre un tel scénario ? Les aliens de Lettonie, c'est un reportage d'Igor Strauss.
I grew up in a small town.
J'ai grandi dans une toute petite ville de Lettonie. Il y avait 97% de Lettons qui vivaient là, et très peu de Russes.
But they were speaking just Russian.
Mais ils ne parlaient que russe, même avec nous.
When suddenly there was independence.
Et puis quand la Lettonie est devenue indépendante, nous avons découvert que la plupart d'entre eux parlaient plutôt bien le letton.
It seems it was a political issue.
Mais pour eux, c'était une question politique. Et pendant la période soviétique, ils ne parlaient que le russe. Ça doit vous paraître bizarre, mais imaginez. Nous avions ces voisins, ces familles russes, et tout à coup, avec l'indépendance, ils se mettent à parler letton. C'était une révolution.
Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous étiez en Lettonie il y a quelques semaines. Au-delà de ce témoignage, est-ce que les russophones de Lettonie, citoyens ou non citoyens, parlent letton ?
Bien, les jeunes, oui, ils parlent tous couramment letton, mais ils doivent quand même passer l'examen pour obtenir la citoyenneté, puisque depuis 1998, tous les russophones arrivés ou nés de parents arrivés dans le pays après juin 1940 doivent le passer. Pour les adultes, c'est plus compliqué. La plupart d'entre eux ne parlent pas le letton, alors très mal. Il faut rappeler que pendant la période soviétique de 44 à 91, eh bien la langue officielle était le russe. Du coup, bien même les lettons parlent russe, ce qui n'incite pas la vieille génération de russophones à se mettre au letton. Ce problème de langue est donc devenu un enjeu pour les gouvernements, mais c'est aussi devenu un point de crispation entre lettons et russophones, comme l'explique cette grand-mère en russe.
Bonjour, je m'appelle Tatiana. Je suis née à l'Ukraine, à Odessa. Mais c'est juste le lieu de naissance parce que mon père est russe et je me considérais comme un russe par les racines. En Lettonie, je suis arrivée dans 1984. Ici, en Lettonie, je suis arrivée avec mon mari militaire qui était envoyé en Lettonie. Et en 1989, nous sommes divorcés. Alors, je restais ici. Et 90, c'est déjà l'arrêt de l'Union, donc j'ai resté dans le pays.
К сожалению, я не смогла вернуться в Россию, потому что на тот момент не было уже мамы живых.
Dans le début de les années 90, quand la vie n'était pas facile ici, j'essayais de demander à l'ambassade russe quelle possibilité il y a pour moi, la femme divorcée d'un militaire soviétique, voilà, je suis ici avec deux enfants, est-ce que je peux revenir en Russie ? L'ouvrier de l'ambassade, il a répondu que personne n'avait besoin de vous en Russie, et vous êtes rien. Ici en Lettonie, parce que vous êtes une occupante, on vous voulait pas là. Moi, j'étais frappée par les phrases comme ça, et j'ai pris mes documents, et j'ai quitté l'ambassade, et j'ai jamais revenu. Alors, pour l'instant, je suis citoyen de rien, citoyen de aucun pays.
Mais alors, justement, est-ce que vous estimez normal que le gouvernement fasse de l'apprentissage de la langue lettonne une condition sine qua non pour obtenir la nationalité?
Я думаю, что это естественно и правильно, потому что взять любую другую страну обязательно.
Personnellement, je trouve ça naturel, c'est la Lettonie, c'est normal qu'ici on demande la connaissance de la langue nationale. Moi, je parle pas, mais je fais tout ce qui est possible pour mes enfants, pour ma jeune fille par exemple, qu'elle apprend la langue. J'ai trouvé les instituteurs spéciaux, j'ai trouvé les répétiteurs, et maintenant elle a aucun problème avec la langue.
Mais justement, on a rencontré beaucoup de gens comme vous qui, après 30 ans, après 50 ans de présence en Lettonie, ne parlent toujours pas la langue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque part un manque d'effort des russophones pour apprendre cette langue ?
Oui, je suis d'accord, ça existe vraiment. Il y a beaucoup de russophones qui ne veulent pas apprendre. Mais personnellement, j'habite dans un quartier qui est ancien quartier russophone militaire. Et tout le monde autour de moi parle russe dans leur vie quotidienne. Donc même la langue lettonne, c'est officiel, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Dans la vie quotidienne, il n'y a pas besoin pour les russophones d'utiliser cette langue. Oui, dans les magasins, sur les rues, dans l'école, tout le monde parle russe.
Mais au fond de vous, est-ce qu'il n'y a pas un côté humiliant à être considéré comme une non-citoyenne, avec ce mot « alien » qui est symboliquement très fort ?
Безусловно, это неприятно, потому что, в принципе, если бы не было этого статуса.
Bien sûr, c'est pas plaisant parce que je pense que s'il n'y avait pas cette statut, je pourrais donner quelque chose pour le pays et bien sûr, je voudrais bien de voter, de prendre part dans la vie politique, mais je peux pas.
Manque d'effort pour apprendre le russe ou incapacité de la Lettonie d'intégrer les minorités russophones. Écoutez les explications de Yanis Tsifkovkis, directeur du bureau de la citoyenneté du ministère des Affaires étrangères en Lettonie.
Le gouvernement letton considère qu'il faut toujours garder quelque chose dans la poche à leur proposer pour les motiver à obtenir la naturalisation. Parce que pour ceux qui n'ont pas demandé la naturalisation, même à cause des avantages qu'ils avaient en tant que citoyens européens déjà dans l'Union européenne, si on leur permet de participer aussi dans des élections, alors il n'y aura plus rien à offrir pour les motiver et puis ils auront presque tout les droits sans devoir donner quelque chose en échange. Même aujourd'hui, au niveau quotidien, une personne russophone peut facilement s'en passer du letton, sans même pas parler letton. Il pourra travailler, vivre, étudier, et tout ça sans avoir un mot en letton. Donc, la politique de la langue était n'est pas donner des statuts spéciaux aux Russes, justement pour obliger au moins les russophones d'apprendre le letton. Même si le russe a été parlé par une minorité, il arrivait à s'imposer et à dominer en Lettonie. On peut être russophone et se sentir confortablement en Lettonie. Du coup, on avait besoin d'une réforme d'éducation. Il faut dire tout de suite qu'en Lettonie, il y a de nombreuses écoles des minorités financées par l'État. Ça veut dire que les enfants là peuvent étudier dans leur langue maternelle. Et puis, la réforme d'éducation a fait de la sorte que ces enfants, ils doivent avoir quelques classes en letton.
Mais quel regard les lettons portent sur cette situation ? Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression d'être dans une sorte de cercle vicieux, à savoir que ce manque d'intégration des russophones provoque une sorte de rejet des Lettons et que ce rejet, eh bien, renforce davantage ce sentiment communautariste, voire nationaliste des Russes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'une dégradation de la situation est à envisager ?
Oui, bien sûr, on peut se servir de la langue comme d'un instrument de radicalisation. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une partie de la société lettonne, les non-citoyens, qui, faute de parler letton, s'isolent, s'enferment et n'écoutent que la radio russe, ne regardent que la télévision russe aussi. Et il faut dire que radicalisation s'est fait des deux côtés aussi. Il y a une montée de radicalisation dans la société lettonne.
Je m'appelle Elisabeth Krivkova. Je suis avocate et présidente du Congrès des non-citoyens.
The Non-Citizens Congress was created in 2012.
Ce congrès des non-citoyens a été créé en 2012, après que le gouvernement ait refusé de faire un référendum sur la loi sur la citoyenneté et de résoudre ainsi le problème des non-citoyens. Le référendum a été interdit et nous avons décidé de créer notre propre structure pour devenir la voix des non-citoyens.
Alors il y a plusieurs points de blocage, on va y revenir évidemment. Le premier, c'est que le gouvernement demande aux non-citoyens de passer un examen et de maîtriser la langue lettonne. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
I think to speak the language and to know basic of constitution.
Je pense que parler la langue et connaître les bases de la constitution et de l'histoire lettonne est nécessaire pour tous les citoyens, qu'ils soient naturalisés ou qu'ils soient nés ici. Mais faire passer un examen à des gens qui vivent ici depuis plusieurs générations, qui connaissent l'histoire et qui ont même participé au référendum sur l'indépendance, ce n'est pas normal. Ces gens-là ne devraient pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Et si vous regardez les statistiques, eh bien, il y a 90% des russophones qui parlent plus ou moins bien le letton, donc ce n'est pas un problème. Bien sûr, certains pourraient s'améliorer pour parler mieux le letton, mais de là en faire une condition pour obtenir des droits, ça, non.
And if we want effective democracy, if we want also good.
Si vous voulez une réelle démocratie, si vous voulez une société unie qui se comprend et se respecte, il faut faire autre chose que ce que propose le gouvernement. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent que ce processus de naturalisation est échoué. Les premières années, c'est vrai, les gens voulaient vraiment devenir citoyens parce que c'était inconfortable pour eux d'être des aliens, comme on dit, c'est-à-dire rien. Mais tout le monde n'était pas autorisé à passer les examens. En même temps, les négociations pour rejoindre l'Union européenne ont commencé. Les gens étaient très optimistes. Ils pensaient qu'ils allaient avoir une nouvelle vie et ils voulaient devenir citoyens européens. Donc le taux de naturalisation a encore augmenté. C'est l'Europe qui a financé les campagnes de motivation pour devenir citoyen letton. Des cours de langue gratuits, des cours pour connaître la Constitution. Et tout cela a entraîné un élan d'optimisme. Mais dès que la Lettonie est entrée dans l'Union européenne, ce soutien de la part de l'Europe s'est arrêté. Il n'y a pas eu de soutien du gouvernement letton à la place. Et puis enfin, une autre raison, c'est que les gens sont moins engagés politiquement qu'avant. De moins en moins de gens participent aux élections. Tout cela fait que la naturalisation est moins attractive. Et les gens s'habituent à être des non-citoyens.
Elisabeth Krivkova, l'avocate que l'on vient d'entendre, parlait de l'entrée de la Lettonie dans l'Union européenne en 2004. Est-ce que, Igor Strauss, l'Europe a vraiment eu un impact sur le nombre de demandes de naturalisation ?
Oui, mais pas autant que ce qu'espérait le gouvernement letton, et ce, pour une raison toute simple. En devenant citoyen letton, donc européen, un russophone doit désormais demander un visa pour aller en Russie. Les visas sont très chers, alors qu'un non-citoyen n'a pas besoin de visa. Certains ont donc renoncé à la citoyenneté pour continuer à voyager en Russie à moindre coût.
On a compris que le problème de la langue donc était sensible. Mais si les russophones parlaient letton, est-ce que ça réglerait vraiment tous ces problèmes ?
Ça éviterait bien des malentendus, on va dire. Ça donnerait l'impression que les russophones font des efforts. Mais malheureusement, parler letton ne suffit pas à créer un sentiment d'appartenance, Emmanuel.
Et du coup, quelles sont les conséquences ?
L'une des conséquences est que les russophones ne suivent que les médias russes et leur propagande pro-Poutine.
My name is Denis Hanos and I'm professor for intercultural communication at the Riga Stradinsk University.
Je m'appelle Denis Hanos, chercheur en sciences sociales à l'Université de Riga et membre du Conseil présidentiel pour les minorités ethniques.
Recently, I met one colleague from Moscow.
J'ai rencontré récemment une universitaire russe ici en Lettonie qui se disait étonnée d'entendre parler russe dans la rue alors qu'elle avait lu dans un journal russe que le russe était interdit. Si une universitaire croit en de telles choses, cela veut dire que n'importe quelle personne lambda en Russie croit que nous sommes ici dans un état policier, ce qui n'est pas le cas. La langue est un facteur d'intégration, elle réunit les gens. Si vous ne comprenez pas une langue parlée par 60% de la population, par vos voisins, par vos collègues, vous n'avez pas l'impression de faire partie de la société. Donc, je pense qu'il faudrait faire davantage pour rendre la langue lettonne plus attrayante.
Mais vous parlez de propagande, comment elle s'articule cette propagande ?
The frame for the propaganda is actually in the entertainment culture.
La propagande russe se fait essentiellement par le biais de la culture de divertissement. Bien sûr, il y a les messages de propagande du ministère des Affaires étrangères de Russie, de Poutine lui-même et de certains députés, mais le moyen de propagande le plus utilisé, c'est la télé avec ses émissions de divertissement, ses talk shows, etc. C'est comme ça que ça fonctionne.
Mais par exemple, qu'est-ce qui se dit dans ces talk shows, dans ces émissions ou dans ces journaux?
Yes, for example, about the image of the Baltic states, which, let's say, deny.
Par exemple, on dit que les États baltes nient la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils réécrivent l'histoire, qu'ils font la commémoration de la Légion SS ici en Lettonie, ce qui est une question très délicate et très sensible ici. Bref, ils essaient de présenter les États baltes comme souhaitant une résurgence de la culture fasciste ou nazie, ce qui est bien sûr une aberration. Ils présentent aussi Poutine comme le défenseur des minorités opprimées dans les pays voisins. On lui donne l'image du leader fort et charismatique.
Comment répliquer à la propagande des chaînes de télévision russes envers les Lettons russophones? Voici le point de vue de Yanis Tsivkovkis, directeur du bureau de la citoyenneté du ministère des Affaires étrangères en Lettonie.
Šobrīd tas galvenais uzsvars, mēs skatāmies no valdības pozīcijām, ir izveidot šo komunikāciju ar krieviski runājošo sabiedrību.
Tout d'abord, le gouvernement a compris qu'il faut de façon urgente améliorer la communication avec les non-citoyens. Parce que s'il n'y a pas de communication, rien ne marche. Surtout, les chaînes télévisées lettonnes, le russophone ne les regarde pas. Il faut chercher surtout comment les atteindre, comment leur parler.
Šobrīd sabiedriskajā telpā notiek aktīvas diskusijas par to, vai veidot atsevišķu.
L'initiative qui plane en l'air maintenant, c'est justement on croit qu'il serait mieux peut-être de créer une chaîne télévisée indépendante qui serait en russe et donc l'Union européenne aussi a exprimé sa disponibilité de soutenir cette chaîne et l'Estonie a déjà fait un pas en avant pour cette initiative et aussi prépare une telle chaîne.
Au-delà des médias pro-russes, il y a aussi par exemple une personne comme le maire de Riga qui est pro-Poutine. Tout ça participe à un sentiment voilà, pro-russe. Est-ce que vous estimez qu'il y a un danger? Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là?
Je dois vous redire que les russophones ne sont pas une masse homogène qui pense tout de la même façon. Les opinions entre eux, bien souvent, sont très différentes et il y a des gens qui, sans doute, appuient l'État letton, mais pour une raison ou une autre, ne peuvent pas demander la naturalisation. Quant aux politiciens, comme par exemple le maire de Riga, il faut dire que nous vivons dans une société démocratique. On ne peut pas tout juste avoir des répressions parce qu'on n'aime pas ce que la personne croit. Et si la partie de maire de Riga a signé un accord de coopération avec la partie de Poutine, on ne peut pas l'interdire. Ça veut dire qu'il y a des électeurs qui considèrent que ceci est nécessaire.
Igor Strauss, une chaîne de télé lettonne mais en langue russe, ce serait une solution?
Ce serait toujours mieux que rien. Il y a une telle désinformation, des rumeurs tellement incroyables qui circulent dans les médias russes qu'un nouveau média pourrait amener les gens à réfléchir. Mais certains lettons ne voient pas cela d'un bon œil et rappellent qu'en 2012, ils étaient opposés au référendum qui proposait de faire du russe la deuxième langue du pays. Référendum qui, rappelons-le, n'avait finalement pas eu lieu.
7 milliards de voisins, les aliens de l'État. Lettonie. Après les problèmes de langue et d'accès aux médias, nous parlerons du point le plus sensible, l'interprétation de l'histoire. Les russophones refusent de parler d'occupation de la Lettonie par les soviétiques en 1940. Selon eux, ils étaient invités. On en parle juste après le flash, dans 3 minutes. Restez avec nous.
In Latvia, we have Latvians who are, let's say, ethnic majority.
En Lettonie, nous avons une majorité ethnique qui est lettonne, avec des parents lettons, mais nous avons aussi des minorités ethniques qui représentent 40% des gens, qui ne sont donc pas ethniquement lettons. Je pense qu'il est temps de soutenir l'idée que tout le monde est letton, mais avec des origines ethniques différentes. Nous participons tous à la construction de la Lettonie contemporaine. Notre société moderne est un lien vers le passé, mais un passé divisé. C'est pourquoi nous n'avons pas le concept, comme en France, où tous ceux qui sont citoyens appartiennent à la communauté française. Même si vous avez des origines ethniques différentes, vous appartenez à la communauté des citoyens. En Lettonie, ce n'est toujours pas le cas. Mais nous espérons pouvoir développer ce concept d'une société qui inclut tout le monde, peu importe les origines ethniques. En même temps, l'histoire de la Lettonie au XXe siècle a été si traumatisante, remplie de victimes, de douleurs, de mémoires oubliées et de commémorations interdites, que c'est très difficile de travailler sur un espace commun. Mais nous devons vraiment le faire.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins en Lettonie, dans les Pays-Baltes, suite de votre reportage, Igor Strauss, sur les aliens de Lettonie, c'est-à-dire des russophones principalement, privés de citoyenneté et de droits civiques depuis l'éclatement de l'Union soviétique et l'indépendance de la Lettonie en 1991. Ils sont encore 260 000, c'est-à-dire 15% de la population, à vivre avec ce statut de non-citoyen, refusant de passer le test de langue et d'histoire du pays instauré par le gouvernement letton en 98 pour obtenir la citoyenneté lettonne. Alors au-delà du problème de langue qu'on a abordé en première partie d'émission, ce qui divise avant tout les lettons et les russophones, c'est l'interprétation de l'histoire du pays, ce qui rend impossible l'idée d'une union nationale et d'une mémoire collective dans la vie de tous les jours.
Je m'appelle Inès Savolkova, je suis ici depuis 1974. Je suis marié avec un militaire qui est venu ici pour travailler sur l'usine militaire qui réparait les sous-marins. J'ai aucun problème avec la langue, je peux passer facilement l'examen, mais je ne suis absolument pas d'accord avec la vision sur l'histoire de Lettonie du XXe siècle. Moi, je ne veux pas répéter le mensonge, je ne veux pas ça.
Alors, expliquez-nous la vision lettonne de l'histoire et votre vision à vous.
Après la Seconde Guerre mondiale, on nous raconte que tout était mal, c'était l'occupation, c'était la violence, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous, les russophones, on a vu, on a travaillé, on a fait les choses différentes. Ce n'était pas l'occupation parce qu'il n'y avait pas de la guerre entre la Russie et la Lettonie. Oui, nous les Russes, après la Seconde Guerre mondiale, on a resté dans le pays, mais personne ne nous chassait. C'était la même, un grand pays. Et peut-être divisé dans les régions, Lettonie, Lituanie, Biélorussie, etc., etc. Mais nous sommes arrivés, pas comme les occupants, nous sommes arrivés pour travailler, pour vivre. Et maintenant, je suis obligé d'accepter le fait de l'occupation et de dire que moi aussi, comme les autres, étaient les occupants. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Mais est-ce que vous pouvez comprendre que d'un point de vue letton, on parle d'occupation ?
J'accepte leur droit d'avoir cette opinion, mais moi je ne veux pas faire un conflit. Je pense comme ça, ils pensent comme ci, et on existe ensemble.
Mais en refusant la citoyenneté pour des motifs historiques, on a l'impression que vous continuez à vivre dans le passé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller de l'avant et franchir une nouvelle étape ?
Non, je ne suis pas d'accord. Je suis un réaliste et je pense que le passé, c'est le donné qu'on ne peut pas changer. Et j'aime l'histoire et je ne veux pas jouer avec ça. Moi, j'aime bien Riga, j'aime bien Lettonie, mais c'est Lettonie qui ne m'aime pas.
C'est fort comme propos. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Quelqu'un a dit, par exemple, la valise, la gare, la Russie. C'est-à-dire que tous les Russes prenaient vos affaires et quittent le pays. Ou, par exemple, le ministère de la Médecine, il a dit qu'il ne faut pas aider aux russophones, parce qu'ils sont l'autre. Je trouve qu'il y a trop de monde dans la politique letton, qu'il manque... la courtoisie. Je ne sais pas dans quelle famille il était élevé, mais je trouve qu'il est mal élevé, les personnes politiques.
Imaginons que demain, il y a une compétition sportive, par exemple, peu importe le sport, entre la Russie et la Lettonie. Vous seriez pour qui ?
Russie, c'est ma родина, Russie.
Mon cœur sera avec la Russie, sans doute, absolument. Mais si ce sera la compétition entre Lettonie et Belarusie, par exemple, je suis avec Lettonie.
Elisabeth Krivkova, elle, est l'avocate des non-citoyens. Elle a été une non-citoyenne pendant de nombreuses années, puis elle s'est décidée à passer le test pour devenir lettonne, Igor Strauss.
Oui, et quand je lui ai demandé comment ça s'était passé, elle m'a répondu que le test de langue n'était qu'une formalité et qu'il était très simple. Quant au test sur l'histoire lettonne, et bien là encore, elle m'a confié qu'elle n'avait eu aucun mal, elle avait juste eu à dire exactement l'inverse de ce qu'elle pensait.
It's true that
C'est vrai que nous avons des interprétations différentes de l'histoire. Et pour les non-citoyens, c'est quelque chose de très important. Avec son interprétation de l'histoire et de l'occupation, le gouvernement letton justifie la discrimination envers un groupe de personnes, les russophones, comme responsables de la terreur soviétique. Et c'est à cause de l'occupation que les non-citoyens sont illégaux sur le territoire et qu'ils doivent légaliser leur statut. Et les russophones ressentent cela comme une injustice parce que, après la guerre, il y a eu une période d'industrialisation ici et les gens ont été invités à venir travailler. Ils sont venus légalement, sans aucun but politique, juste pour des raisons personnelles, notamment le travail. Et après, des politiciens ont tenu à les rendre responsables de la répression stalinienne et de toutes les mauvaises choses de l'époque soviétique. C'est terriblement injuste, parce qu'une seule partie de la société ne peut pas être responsable de toute la terreur soviétique. C'était des lettons qui avaient les hauts postes au sein du Parti communiste et qui sont donc responsables de cette terreur. Ils en sont même directement responsables, contrairement aux migrants qui sont venus travailler ici et qui ne sont qu'indirectement responsables. Et c'est pour ça que de nombreux non-citoyens refusent cette version de l'histoire.
Les occupants de simples migrants travailleurs. Voici maintenant le point de vue de l'historien Denis Hanovs. Il est un ancien non-citoyen russophone, chercheur en sciences sociales à l'université de Riga, mais il est lucide sur cette période de l'occupation russe et il n'est pas d'accord avec l'avocate des non-citoyens.
What concerns these two versions of history? The one, it's a denial of occupation. So if you look in internet,
une des versions consiste à nier l'occupation soviétique. Si vous regardez sur internet, vous allez trouver des sites qui proclament qu'il n'y a pas eu d'occupation. Dans le même temps, beaucoup de personnes en Lettonie, et pas que des Lettons au sens ethnique du terme, ont connu le régime soviétique, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Ont vécu la déportation en Sibérie, en étant transportés comme des animaux dans des wagons surchargés. Il y a eu des milliers de morts. Comment peut-on tirer un trait sur cette mémoire collective? Les gens sont revenus du goulag pendant le régime de Khrouchtchev, mais n'étaient pas autorisés à parler d'occupation et de déportation. Donc pendant 50 ans, ils ont dû renoncer à parler de ce traumatisme car c'était trop dangereux, pas uniquement physiquement, mais aussi parce qu'on pouvait perdre son travail ou sa place à l'université pour ce motif. C'était une période d'oppression et de déni de la mémoire. Puis à la fin des années 90, avec la perestroïka de la période Gorbatchev, certaines personnes, dont des Russes, ont enfin ouvert les yeux sur la période stalinienne. Ils ont commencé à parler du goulag, des camps de concentration, de la grande terreur des années 1937-1939. Ce fut une courte période pendant laquelle on a pu parler de ce traumatisme, mais malheureusement, ça n'a pas duré.
What I see in political elite of today
Et ce que je vois aujourd'hui chez les élites politiques russes, c'est cette volonté de restaurer la gloire de l'Empire aux dépens de la société civile. Et la mémoire fait partie de ce projet, ce qui signifie que tous les crimes commis par l'État doivent être oubliés. Seul compte la grandeur de l'Empire. Pourtant, la Lettonie a bien connu l'occupation soviétique en 1940, puis l'arrivée des troupes nazies, et enfin une deuxième occupation soviétique à partir de 1944-45 jusqu'en 1990. C'est un ensemble de traumatismes et de conflits concernant le passé. Donc, la question aujourd'hui, c'est, sachant cela, comment créer une société qui puisse dialoguer entre différentes communautés.
If you divide people according to historical trauma, you will never be able to establish a stable political culture.
Quand on divise les gens en se servant des traumatismes historiques, on ne peut pas créer une culture commune stable. Mais on ne sent pas une volonté de régler le problème chez les hommes politiques, parce que ça les arrange, ça leur permet d'éviter de parler des questions d'immigration, du chômage, du système de santé qui est à terre. Il est plus facile pour eux de sortir à chaque élection des slogans comme « les Russes arrivent » ou « les Lettons ne renoncent pas » ou encore « la Crimée est notre amie » et autres slogans du genre. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où certains ignorent le passé ou ne le respectent pas.
Belle leçon d'histoire pour vivre le présent. Cette réécriture de l'histoire semble difficile à comprendre. Alors, comment s'est-elle transmise, Igor Strauss, aussi facilement finalement dans les familles russophones, y compris jusqu'à aujourd'hui ?
Bien, vous savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et en 1944, c'est l'Union soviétique qui a gagné, pas la Lettonie. Pendant près de 50 ans, de 1944 à 1991, date de l'indépendance du pays, ce sont les soviétiques qui ont assommé le peuple avec leur propre version de l'histoire. Du coup, les russophones ne comprennent pas qu'on parle d'eux comme des occupants. Pour eux, ils sont des libérateurs. Ils ont libéré le pays d'un président autoritaire en 1940, puis ils ont libéré le pays du nazisme en 1944. Et cette version tronquée de l'histoire se transmet entre générations chez certains russophones.
En 2014, alors que Riga était la capitale européenne de la culture, le gouvernement d'ailleurs a inauguré une exposition dans l'ancien siège du KGB. Une exposition qui arrive un peu tard pour certains.
My name is Aya Abens. I am the project coordinator for the KGB building.
Je m'appelle Aya Abens. Je suis la coordinatrice de l'exposition sur le bureau du KGB qui fait partie du musée de l'occupation. Cette exposition a débuté l'année dernière, en 2014, lorsque Riga était la capitale européenne de la culture. Mais on a reçu des financements pour maintenir cette exposition jusqu'à la fin 2016.
Donc là, l'endroit où on se trouve, c'était le bureau officiel du KGB à l'époque.
Oui, c'est ça. Le KGB s'est installé ici juste après l'occupation du pays par les soviétiques en juin 1940. Ils ont passé 4 mois à faire des travaux durant lesquels ils ont construit les cellules et la salle d'exécution. Les premiers prisonniers sont arrivés en novembre 1940.
En 1940, qui est-ce que le KGB arrêtait ? Qui étaient les ennemis du régime finalement ?
Quiconque participait à des activités contre-révolutionnaires était considéré comme un ennemi de l'État. Donc, si vous étiez membre d'un groupe ou d'un collectif quelconque, si vous aviez travaillé pour la police lettonne, si vous aviez un magasin ou si vous étiez un paysan possédant trop de terres, vous étiez considéré comme un contre-révolutionnaire. Et vous savez que la révolution soviétique était une révolution prolétarienne. Donc, si vous n'étiez pas un prolétaire, vous étiez un ennemi de l'État. Donc, il y a eu beaucoup de personnes exécutées ici. Mais la plus grande partie a été déportée en Sibérie et d'autres ont fait de la prison.
Vous nous faites visiter ?
Absolument.
Bien sûr.
Alors là, on rentre d'en bas. Ce qui devait être une cellule avec 4 lits en fer, mais très rudimentaires. Une minuscule fenêtre. Et une pièce qui fait 6 mètres carrés, très très sombre.
Ça, c'est une des cellules qu'on montre aux visiteurs. C'est une cellule pour 4 personnes, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Ils dormaient à même le sol, tête bêche, ils n'avaient pas le droit de se parler et la lumière était constamment allumée. Il faisait entre 35 et 40 degrés dans la cellule, parfois plus, juste pour rendre le lieu plus inconfortable. Donc les prisonniers gisaient là, nus ou en sous-vêtements, afin de moins souffrir de la chaleur. Ils étaient interrogés au sixième étage pendant la nuit. Les prisonniers nous ont dit qu'ils se réveillaient la nuit pour aider ceux qui revenaient de l'interrogatoire inconscients ou qui ne pouvaient plus marcher tellement ils avaient été battus.
Donc toujours des grilles, on passe des grilles, de grille en grille.
This door leads to the exercise yard.
Cette porte mène à la cour d'exercice.
This is the interior courtyard.
Ici, c'est la cour intérieure du bâtiment. Vous pouvez voir des barreaux aux fenêtres des 5e et 6e étages. Pendant les interrogatoires, certains détenus se jetaient par la fenêtre pour se suicider. Donc le KGB a décidé d'installer des barreaux.
This is the last part of the exhibit.
Voici la dernière partie de l'exposition accessible aux visiteurs. C'est la salle d'exécution. On estime qu'il y a eu entre 100 et 200 exécutions ici, entre janvier 1941 à juin 1941, juste avant l'arrivée des nazis en Lettonie. Après leurs exécutions, ils étaient transportés par camion et enterrés dans les fosses communes autour de Riga. Quand les nazis sont arrivés, ils ont découvert certains charniers. Ils ont exhumé les corps et les ont enterrés proprement. Mais ils se sont servis de cela pour leur propagande, pour montrer la barbarie des bolcheviks. Et bien sûr, les bolcheviks étaient considérés comme des juifs, ça faisait partie de leur propagande. Mais les soviétiques aussi se sont servis de l'histoire pour leur propagande. Encore aujourd'hui, certains affirment que les Lettons collaboraient au régime nazi, ce qui est faux. Mais voilà, l'histoire est un point sensible et tout change selon le côté dans lequel vous êtes.
Qu'est-ce que ça vous fait justement qu'on puisse encore nier ces faits et réécrire l'histoire ?
Ça prouve simplement à quel point le lavage de cerveau est efficace. Si vous répétez un mensonge indéfiniment, à la fin, il devient la vérité. Mais l'été dernier, juste après l'ouverture de l'exposition, des gens sont venus tous les jours pour nous raconter ce qu'ils avaient vécu ici. Quand une seule personne témoigne, on peut douter. Mais quand des centaines de personnes disent la même chose, encore et encore, on peut se dire que c'est vrai. Et de toute façon, on a les documents ici qui prouvent tout ce qui s'est passé ici.
Grégory Sanlit, je suis né à Moscou, j'ai 31 ans, je suis d'origine russe, même pour l'instant j'habite en Lettonie et je suis musicien, je suis pédagogue et je suis guide et on peut dire historicien dans quelque façon. J'ai demandé plusieurs fois aux personnes russophones comment ça se passe que vous êtes né à Koursk, Vladimir, Kiev, Moscou, mais vous êtes là. Et pour eux, cette question, c'était choc. On n'a jamais demandé soi-même pourquoi je suis dans un pays qui est un autre pays. On habite où on habite et on ne sait pas le passé. Ils veulent la citoyenneté donnée comme un cadeau. À mon avis, c'est le signe de non-respect pour l'État où ils vivent. Ça cause des problèmes. Quand je suis marié avec ma femme, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais peur que la grand-mère de ma femme, qui était torturée par le KGB, qui était frappé par les soldats, qui était envoyé dans le camp, dans cette Norilsk, c'est au nord. Elle était vivante encore. Et j'ai pensé comment je pourrais être à côté d'elle quand je suis russophone. Pour moi, c'était le problème. Pour les Russes qui habitent là, c'est pas le problème.
Mais pourquoi toi, à 31 ans, tu veux porter le poids des autres générations?
Je crois que ça, c'est exactement le sens de civilisation. Si on ne partage pas le passé, nous n'avons pas le droit pour l'héritage de passé. Je ne peux pas dire que je suis russe. Derrière moi, c'est Catherine le Grand, c'est Dostoïevski, c'est Tchaïkovski. Non, excusez-moi. Si derrière moi, c'est la gloire de l'Union soviétique, c'est-à-dire que tous les crimes de l'Union soviétique sont derrière moi aussi. Si je veux utiliser cette civilisation, je porte les bijoux et je partage aussi la saleté.
Belle métaphore. En Lettonie, en tout cas, le débat n'en finit pas sur les non-citoyens et les minorités russophones. Alors, comment s'extirper de cette situation intenable dans un pays européen au 21e siècle? Denis Anovs, chercheur en sciences sociales à l'université de Riga et ancien non-citoyen.
We should make Latvian memory politics more European.
Nous devrions rendre la politique de mémoire plus européenne. Beaucoup d'expériences ont été menées au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en France, en Pologne, sur le passé autoritaire et sur le fait d'avoir été victime et d'avoir été coupable. Nous devons ouvrir le débat critique et c'est pour cela que nous avons besoin de jeunes historiens qui reviennent en Lettonie avec des doctorats obtenus en Europe occidentale.
We are a member of the European Union since 2004.
Nous sommes membres de l'Union européenne depuis 2004. Je pense que nous devrions maintenant rejoindre cette culture européenne de la mémoire. Nous ne pouvons pas rester isolés sur cette question. De nombreuses communautés ont également souffert et il faut s'inspirer de ce qu'on fait les autres.
S'inspirer des autres pays européens, pourquoi pas, ça peut être une solution, Igor Strauss?
Ça peut être une solution, en tout cas il faut faire vite, hein, car l'histoire est en marche. Pas celle que nous venons d'évoquer, hein, portant sur la période 1944-1991. Non, c'est de l'histoire contemporaine qu'il est désormais question. Vous le savez, il y a un peu plus d'un an, la Russie de Vladimir Poutine, nostalgique de sa grandeur passée, annexait la Crimée au sud de l'Ukraine, autre ancienne province de l'Union soviétique. Et la question se pose désormais en Lettonie. La Russie pourrait-elle intervenir pour le bien de ces russophones opprimés, entre guillemets? Et bien là encore, les avis divergent. Elisabeth Krivkova, l'avocate des non-citoyens.
We ask for effective solution of statelessness problem.
Nous demandons une réponse concrète pour ces personnes apatrides. Cela passe par le dialogue et pour l'instant, le gouvernement letton est dans le déni. Il dit que c'est un problème personnel, que les non-citoyens ne veulent pas devenir citoyens, que c'est de leur fait. Ils se contentent de ça. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que toutes les personnes vivant en Lettonie et qui sont nées en Lettonie soient égales et participent au processus démocratique. C'est comme ça que l'on pourra favoriser l'intégration, pas en parlant de culture ethnique, de culture dominante et d'autres choses encore. La seule valeur, la seule notion, c'est la démocratie. C'est vrai pour toutes les sociétés, il faut qu'on s'en serve.
Est-ce que vous pensez qu'un scénario comme celui qui se passe en Ukraine pourrait se passer ici en Lettonie?
Bien sûr, il y a des tensions entre deux communautés ethniques. Il y a une sympathie envers la Fédération russe de la part des russophones vivant ici. Donc il y a des similitudes. La question est, que faisons-nous pour éviter ce scénario? En ce moment, les gens en Lettonie réalisent qu'il y a un risque potentiel de débordement. Mais nous ne faisons rien. Si vous regardez comment les non-citoyens se sentent en Lettonie, eh bien, vous comprendrez qu'ils se sentent plus concernés par ce que fait Poutine que par ce que fait notre gouvernement. Et c'est ça le problème. Les non-citoyens ne se sentent toujours pas les bienvenus dans le processus démocratique letton. Du coup, il y a un risque d'instrumentalisation de la part de la Russie qui pourrait venir aider et soutenir cette partie de la population. Mais moi, je pense que nous n'avons besoin de personne pour régler ce problème. Il faut que le gouvernement et la société lettonne montrent que nous pouvons gérer le problème nous-mêmes dans le cadre de notre démocratie. C'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Yanis Tsiskovskis, vous êtes directeur du bureau de la citoyenneté au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que la Lettonie pourrait connaître un scénario semblable à celui de l'Ukraine?
Franchement, je ne crois pas que cela soit possible. Oui, il est vrai qu'il y a certains secteurs de société où il y a des personnes qui se sont radicalisées et même parties pour lutter en Ukraine. Mais je veux vous dire où est la différence entre la Lettonie et l'Ukraine.
Tout d'abord, les niveaux de vie en Lettonie est beaucoup plus élevé qu'en Ukraine, bien que nous avons encore beaucoup à faire pour parvenir au même niveau que les pays de l'Europe occidentale. Mais tout de même, les gens qui habitent ici apprécient beaucoup la paix et la stabilité qui règnent ici, et je ne crois pas que purement une question linguistique pourrait être suffisante pour provoquer un conflit militaire.
Alors finalement, Igor Strauss, est-ce que le temps peut être un allié pour l'Union nationale en Lettonie? L'arrivée d'une nouvelle génération de russophones qui n'a pas connu ces années noires peut-elle faire évoluer les choses?
Bien, c'est exactement ce que pense le gouvernement letton, mais encore une fois, l'avocate des non-citoyens, Elisabeth Krivkova, ne partage pas le même avis. Pour elle, l'histoire et ses traumatismes se transmettent de génération en génération. Du coup, eh bien, j'ai posé la question à des jeunes, et notamment à Mariana, la fille de Tatiana, la non-citoyenne que vous avez entendue au début de ce reportage.
Je m'appelle Mariana, j'ai 28 ans et j'ai décidé de devenir une citoyenne lettonne à l'âge de 16 ans. À cette époque, au collège, on nous demandait de réfléchir au métier qu'on voulait faire plus tard. Et comme moi, je voulais faire de la politique, il fallait que je prenne la citoyenneté, parce qu'évidemment, ce n'était pas possible pour un non-citoyen.
Mais est-ce que, comme votre maman, vous aviez un passeport avec marqué « alien » dessus?
Oui, j'avais aussi un passeport alien. Mais vous savez, quand on est jeune, on ne réalise pas trop. Moi et mes amis, on ne prenait pas ça vraiment au sérieux. On en rigolait même. On se disait « on est des étrangers ». Mais ce n'était pas vraiment un souci, parce qu'en vrai, je ne me suis jamais sentie étrangère ici.
Aujourd'hui, à 28 ans, de quelle nationalité vous vous sentez?
C'est une bonne question. Je dirais moitié lettonne, moitié russe. Je parle letton, je travaille avec des lettons, donc je me sens l'une des leurs. Mais bien sûr, je suis aussi russe et j'en suis très fière.
S'il y avait une compétition sportive, peu importe laquelle, entre la Russie et la Lettonie, qui vous supporteriez?
La Lettonie, bien sûr.
Il y a quelques jours, un nouveau président letton a été élu, Raymond Vejonis. Il est russophone et d'ailleurs né en Russie. Son père servait dans l'armée soviétique. Les aliens de Lettonie, c'était un reportage d'Igor Strauss à la réalisation Romain Dubrac. Si ce reportage a suscité votre curiosité, allez sur le site rfi.fr pour en savoir plus avec un web documentaire. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons d'éducation, comme chaque vendredi. École pilote en banlieue, quelle raison d'espérer un autre vivre ensemble en France, 5 mois après les attentats de Charlie Hebdo. À demain.